Rendez-vous au théâtre de Vénissieux à présent, transformé en l'espace de deux représentations, les 13 et 14 décembre prochains, en théâtre du Palais Royal, là où le 11 mars 1672 était donné, pour la première fois, les femmes savantes. Bienvenue chez Molière, donc bienvenue dans une famille déchirée en deux, au nom du bel esprit. D'un côté, Philaminte, sa fille Armande et sa belle-sœur Bélise, farouchement opposées au mariage, éprises de poésie, de philosophie et de science, et qui sont sous l'emprise d'un faux savant aux dents très longues, le fameux Trissotin. De l'autre, les garants du naturel, Chrysale, bourgeois asservi aux caprices de sa femme, Philaminte. Et puis, dans son camp également, son frère Ariste, Henriette, sa seconde fille, très gracieuse, sans compter le bon sens de la servante, Martine. L'histoire, c'est celle de Clitandre, le soupirant d'Henriette, qui a décidé de l'épouser et elle y consent. Mais pour cela, ils vont devoir obtenir le soutien de la famille. Alors si ça pose pas trop de problèmes pour Chrysale et Ariste, le père et l'oncle, les trois femmes savantes s'y opposent pour des raisons très différentes. Celle de Philinte, la mère, c'est qu'elle veut qu'Henriette, sa seconde fille, épouse Trissotin, pour asseoir son alliance avec la science et la philosophie. Bienvenue donc dans une des dernières grandes comédies de caractère et de mœurs de Sieur Jean-Baptiste Poquelin. Et pour en parler, je reçois Agnès Larocque qui assure la mise en scène de cette adaptation, donc de la pièce de Molière créée au Théâtre de Vénissieux par la compagnie du Détour et que vous pourrez découvrir les 13 et 14 décembre. Bonjour Agnès Larocque.
Bonjour.
Alors pourquoi ce choix de monter, de mettre en scène cette célèbre comédie de Molière, pièce en 5 actes, en alexandrin, donc une forme très classique, alors que justement, il me semble que c'est la première fois que votre compagnie décide de monter une pièce du répertoire classique.
Oui, tout à fait. Effectivement, jusque-là, notre compagnie créait ses spectacles, les écrivait et s'orientait vers des formes toujours très burlesques où les personnages étaient toujours mis en défaut dans des situations à la fois de corps et de scénario qui tendaient en permanence vers le ridicule. Donc un théâtre essentiellement de corps. Nous bâtissions des projets autour de thèmes de société qui nous énervaient un peu, comme la souffrance au travail, etc. Et les femmes savantes, ça arrive un petit peu par hasard dans cette suite de ce voyage autour du théâtre burlesque. La première raison, c'est que je voulais depuis un petit moment travailler avec cinq actrices.
Et on y reviendra, oui.
Et ensuite, m'attaquer à une comédie écrite déjà depuis très longtemps, donc un classique finalement. Je me suis tournée vers la comédie toujours avec ce souci de raconter des histoires et de dénoncer certaines choses par le rire. Les femmes savantes, je les ai rencontrées il y a 20 ans quand j'étais jeune élève au conservatoire de Clermont-Ferrand.
Oui.
Et c'est une pièce qui m'a à l'époque beaucoup, beaucoup amusée à traverser, en tout cas en tant que comédienne. J'ai trouvé aussi dans cette pièce une chose rare, c'est 5 rôles de femmes, tout bêtement. Ce qui est très très rare dans tous les classiques qu'on peut lire et compiler. C'est assez compliqué de trouver des rôles féminins pour 5 comédiennes. Là, il y en avait 5. Donc j'ai creusé un petit peu, je l'ai relu plusieurs fois. Et on s'est dit que c'était tout à fait la bonne pièce pour déjà nous continuer à défendre un théâtre burlesque. Aussi faire un hommage aux actrices. Et puis parler à travers cette pièce, qui est un peu paradoxale mais quand même, d'un certain féminisme, même si Molière dans cette pièce s'en moque assez ouvertement et même violemment parfois.
Oui, parce que c'est pas n'importe quelle pièce que vous prenez, pas n'importe quelle pièce de Molière. À suivre Émile Faguet, qui était un auteur et un critique du début du siècle dernier, il disait que c'était la comédie la plus complexe de Molière. Et il disait, il y a dans Les Femmes Savantes une comédie, une farce et une thèse. Ça fait beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que Molière, il fait le choix avec Les Femmes Savantes, une comédie en 5 actes et en vers, pour enrichir l'éternelle histoire des amants contrariés dans leur plan par une mère ou un père ridicule et qui vont être sauvés in extremis par l'action de l'artifice à la fin. Et pour cela, donc, il réutilise, comme l'a montré Georges Forestier, la structure du Tartuffe pour les femmes savantes. C'est exactement la même structure, sauf qu'il remplace la dévotion par la pédanterie, ici. C'est donc une pièce où Molière, on le voit bien, il réfléchit beaucoup sur son théâtre, sur le comique. Et d'ailleurs, il multiplie les registres du comique, il le fait alterner avec des passages vraiment émouvants, vraiment dramatiques. Il creuse cette question des changements de registre et on rit beaucoup, mais derrière, il y a toute cette réflexion. Alors, est-ce que c'est ça aussi qui vous a intéressé, cette réflexion sur c'est quoi le comique ?
Oui, aussi, bien sûr. C'est effectivement une pièce de maturité qui suit 20 ans plus tard Les Précieuses Ridicules, son premier opus, on va dire, sur la préciosité incarnée par un certain monde féminin. Et là, dans cette pièce, effectivement, mais comme dans moi, ce que je pense du théâtre burlesque, on est à la fois dans de la comédie en permanence, des gens qui ratent, qui sont entravés dans leur désir, et aussi un théâtre, le contrepoint est toujours là, c'est le tragique. Nous, on décide d'en rire, parfois moins. Mais cette pièce, pour nous, ouvre effectivement toutes les fenêtres à la fois du rire et du drame. La gageure un peu aussi, c'était de confronter une langue aussi exigeante et même aujourd'hui un peu rébarbative qu'est la langue de l'alexandrin.
Oui, bien sûr. Oui.
À une forme physique, corporelle, où les acteurs ne font pas que dire et se promener dans un salon, mais vont aussi agir entre eux ou agir entre eux à travers des objets, des manipulations. Donc on est à la fois dans un bras de fer entre une écriture entre guillemets rigide, exigeante, et un corps vivant, entravé, risible, ridicule, musclé. Et ce bras de fer qu'on fait ouvre effectivement à la fois une lecture très comique, très décalée, et à la fois tragique. En général, dans les femmes savantes, on ne se touche pas, on parle, on discute, on discourt. Ici, il y a des actions, comme des gifles, des chutes, des assiettes qui volent, enfin des bols qui se cassent, des actions violentes, mais qui font partie de tout le vocabulaire burlesque du cinéma muet, par exemple, des années 20.
C'est-à-dire que vous êtes quand même pas à faciliter la tâche, vous prenez un classique quand même très complexe, même s'il n'est pas compliqué, il est complexe, et vous vous dites, bah, on va encore plus complexifier la chose pour ouvrir encore plus de possibilités, et notamment grâce à cette forme burlesque, je vous cite, qui redonnera du corps là où tout concourt à l'éviter. Alors pourquoi ce choix justement du corps?
Ce choix du corps, pour moi, il est inhérent et indispensable à la forme burlesque que j'ai envie de faire traverser à tout ce que j'entreprends artistiquement. C'est fondamental. Moi, je viens d'une formation de corps aussi en tant que comédienne. J'ai fait l'école Lecoq à Paris, qui est une école sur le mouvement plus D'accord. que sur le dire. Mmh. Très exigeante à cet endroit-là. Et moi, j'ai besoin de fabriquer un théâtre d'acteurs qui parlent et d'acteurs qui bougent. C'est essentiel dans ma démarche. Là où aussi on ne s'est pas simplifié la tâche, c'est qu'on est 5 comédiennes
oui,
à jouer tous les rôles.
C'est ça, oui.
Je peux en parler peut-être tout de
suite. C'est l'originalité de votre mise en scène, on peut en parler tout de suite. C'est qu'il n'y a que des femmes
oui.
sur scène. Alors j'ai lu en préparant cette émission, et vous l'avez dit, que vous aviez envie de ne travailler qu'avec des comédiennes. Alors est-ce que c'est un pied de nez aux misogynes de tous les temps, ou alors c'est que vous en avez vraiment marre des hommes en général et au théâtre en particulier?
Alors non, j'en ai pas marre des hommes, c'est un pied de nez à la misogynie ambiante qu'on trouve dans ce texte. Il s'agit quand même d'un texte où, pour la première fois, Molière décrit un clan matriarcal, et c'est nouveau dans son œuvre en tout cas. Donc certains trouvent, j'ai déjà entendu des interviews à cet endroit-là dire que cette pièce est féministe, je trouve pas. J'ai l'impression plutôt que Molière se moque du féminisme en caricaturant un peu ces femmes qui se gargarisent d'un imposteur et donc qui se trompent un petit peu de héros, entre guillemets, je vais un peu vite là, mais bref. Donc moi, cette volonté de faire tout jouer à des comédiennes, c'est pour me moquer un petit peu finalement de Molière, se moquant du féminisme. En faisant endosser tous les rôles masculins et féminins à des femmes, on se moque autant des rôles féminins que des rôles masculins, tout le monde y passe. Et cela est appuyé encore un peu plus par le choix de la scénographie qui est une cuisine, où là, on sort du salon un peu classique et on se retrouve dans une cuisine, lieu aussi... féminin, entre
Alors,
guillemets.
Justement, on le disait, il y a uniquement des femmes sur scène.
Oui.
Les femmes, elles assument à la fois les rôles masculins et les rôles féminins. Et où est-ce que vous les mettez? Dans une cuisine. Alors, dit comme ça, résumé comme ça, je le fais exprès, ça fait un brin cliché machiste, hein, quand même. Alors, rassurez-moi, vous appelez bien Agnès Larocque, pas Éric
oui.
Zemmour. Hein.
Non.
Alors, j'ai bien lu votre dossier de presse que m'a envoyé Alexandra Sauquet, qui se trouve d'ailleurs derrière la vitre. Alors, j'en profite pour la remercier, au passage, la vitre de la régie, évidemment. Alors, j'ai bien vu que vous appelez pas Éric Zemmour, j'ai vérifié, hein, Agnès Larocque.
Oui, c'est
et
bien
que vous faites de la cuisine le laboratoire du burlesque. Alors, expliquez-nous.
C'est un laboratoire parce qu'une cuisine, c'est un lieu concret. Le théâtre burlesque, le burlesque se nourrit de concret en permanence. Dans un salon, après avoir fait le tour du canapé, du fauteuil et de la bibliothèque, on aurait un peu tourné en rond. Une cuisine va nous donner, au contraire, matière à semer la pagaille en fonction de ce que vont rencontrer les personnages sur leur trajectoire pendant 5 actes. Donc c'est pour nous un laboratoire aussi de recherche autour du théâtre burlesque, un laboratoire d'objets, de matière, de nourriture à boire, à manger, qui va permettre d'accompagner cette histoire, les femmes savantes, et de l'incarner de plus en plus. Et c'est comme une cour de récréation, finalement, où on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir casser la scène d'après, ou en tout cas manger.
C'est une scène de récréation, mais c'est aussi une magnifique scène pour comprendre ce qui se passe dans la tête des personnages.
Complètement. C'est-à-dire que les habitudes culinaires de certains vont venir appuyer leur caractère, puisqu'on est dans une comédie de mœurs et de caractère aussi. Donc on s'est amusé. Parfois, on n'a pas eu le loisir de se focaliser trop là-dessus, parce que le choix était aussi de faire de cette pièce une adaptation pas trop longue, d'1h20 à 1h25. Donc il a fallu faire des choix. Mais on va suivre certains personnages sur leur trajet culinaire. On s'amuse par exemple avec cette scène d'exposition qui est assez complexe au départ entre les deux sœurs, à la poser à l'heure du petit déjeuner le matin avec un bol, des céréales, du Nutella, etc. Et on essaie de faire en sorte que les choses se passent le plus mal possible, comme dans le théâtre burlesque. Et là, c'est écrit, donc on ne s'en prive pas.
Et puis alors, cette cuisine, elle vient aussi contredire un peu la pièce, puisque dans cette pièce, les femmes savantes, c'est le bel esprit. Et là, vous les mettez dans la cuisine avec des cornflakes en plus.
Oui, complètement. Ça contredit. Et puis c'est même un non-sens presque, parce que comme on est chez des bourgeois, il aurait fallu représenter ça normalement dans le salon où l'on reçoit. Là, on est dans le lieu de Martine, finalement, cette servante de cuisine, qui est d'ailleurs mise à la porte assez vite. Donc c'est presque un contresens, qui est volontaire d'ailleurs, hein. C'est aussi une manière de tordre un peu la tradition, de nous amener vers autre chose, d'être impoli,
mettre un... Transgressif.
Un peu transgressif, un peu culotté.
Ouais.
Voilà.
Et puis forcément, cuisine, comique burlesque, on pense, et vous le disiez, aux héros de cinéma muet du début du siècle dernier, qui faisaient vraiment un point d'honneur à tout casser.
Exactement.
Alors les femmes savantes, est-ce qu'elles risquent pas un peu de se changer en femmes souillantes ?
Non, pas souillante, en femme cassante.
Cassante. Il va y avoir des choses qui vont voler.
Oui.
Pas de nourriture peut-être, quand même.
Si, aussi.
Un peu de nourriture.
Oui, quand même, oui. Oui, c'est important. Il y a du désordre dans cette pièce. Alors, il est écrit avec des beaux mots, avec le beau langage. Donc, en général, on reste à cet endroit-là. Mais le mariage des deux a été aussi un peu un défi qu'on a voulu relever, et ça se passe pas si mal que ça, je trouve, à l'arrivée. C'est plutôt réussi, cette alliance entre l'esprit et le corps, hein, ce que raconte la pièce en permanence.
Et donc, il risque d'y avoir de la purée dans l'air, on va dire ça pour résumer.
Un petit peu, oui.
Atmosphère burlesque, on l'aura compris, pour les femmes savantes. Et ce regard burlesque, on l'a touché du doigt déjà avec cette interview, ce rire critique insolent. C'est quelque chose que vous cultivez avec la compagnie du Détour.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette compagnie que vous avez fondée avec Laure Seguette, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, avec Laure Seguette. C'est une compagnie qui a 12 ans d'existence. Effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pratiquer, à travers nos différents choix de spectacle, de création, un rire, ce qu'on appelle un rire de résistance. Alors, on essaie d'éviter le rire de divertissement, parce que ça ne nous amène pas
à grand-chose,
mais de proposer des spectacles avec un fond, des thèmes engagés qui portent à réfléchir, mais par le rire, ce qui fait que nous, ça nous permet aussi de rencontrer un public assez large. On peut aussi bien aller jouer dans une campagne profonde où certains publics n'ont jamais vu un spectacle de leur vie et viennent découvrir notre travail. Et des abonnés de scène nationale, par exemple, qui, eux, ont l'habitude et viennent écouter plus peut-être un fond qu'une forme. Mais on arrive à fabriquer un théâtre populaire, exigeant. On évite vraiment, on ne se facilite pas toujours la tâche, mais
on vient de le voir dans l'interview qu'effectivement vous n'êtes pas facilité la tâche, parce que vous avez creusé vraiment toute cette matière, et ça prouve qu'on peut être populaire sans être simpliste. Et ça,
oui,
déjà, c'est...
Complètement,
c'est
crois.
Énorme.
Et ça permet d'élargir un peu les rencontres, autant avec des jeunes d'ailleurs qu'avec des personnes adultes, etc. Nous, on a envie le rire, pour moi, c'est un passeport essentiel et évident pour la plupart des gens, en tout cas pour créer de la curiosité, pour ceux qui n'en ont pas trop ou qui ont peur de s'ennuyer au théâtre, etc. Donc là, on propose quand même un texte. Donc certes, on a déjà croisé des spectateurs qui nous ont dit « Les femmes savantes, on n'avait pas trop envie de venir, parce que c'est quand même une pièce,
ça me rappelle,
c'est un peu lourd. » Mais à la sortie, ils étaient plutôt... très étonnée et ravie de la forme qu'on y a mise, et sans entacher la lecture et la compréhension de cette œuvre.
Et toutes les lectures, on peut même dire.
Et toutes les lectures.
Et justement, vous parlez de ces rencontres que vous affectionnez et qui sont magnifiques dans votre travail. C'est ce que vous allez faire aussi, puisque la Compagnie des Tours, elle entame cette saison une résidence sur 2 ans au Théâtre de Vénissieux. Et vous allez porter à cette occasion le nouveau projet de territoire du Théâtre de Vénissieux, La Petite Babel. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, La Petite Babel, il s'agit d'un projet de territoire où nous allons mener des ateliers pendant 2 ans avec des populations diverses comme des collégiens, des lycéens, des centres sociaux, la Majo qui est un centre d'hébergement, Aralis aussi. Et à partir de ces ateliers, on va inventer avec le public que l'on aura, c'est avec eux qu'on va vraiment inventer cette histoire, un spectacle dans 2 ans qui sera issu de ce travail de chantier qu'on aura mené avec eux, d'écriture autour du futur dont on a envie. Nous, toujours avec notre souci de décaler les choses.
Burlesque.
Voilà, burlesque par le rire, mais par aussi l'ironie, un rire impoli, mais toujours nourri des populations qu'on rencontre, qu'on fabrique, on fabriquera ce spectacle avec eux et non pas en se servant de la population qu'on va rencontrer. C'est vraiment basé sur une rencontre, une ouverture. Nous, c'est nouveau pour nous. C'est essentiel. En plus, ça nous arrive à un bon moment de maturité pour la compagnie, de s'installer quelque part et de continuer à questionner notre travail avec des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées autrement.
Donc c'est un beau projet.
C'est un très beau projet, humain et artistique, très excitant.
Et avant ce beau projet, on peut découvrir votre adaptation des Femmes Savantes, les 13 et 14 décembre au Théâtre de Vénissieux, avec sur scène Adeline Benamara, Frédéric Moreau de Belin, Valérie Larocque, Irène Chauve, Laure Seguette. Sans oublier à la scénographie Simon Laval, aux lumières Alban Martin, au costume Benjamin Moreau et au maquillage Pascal Jehan. Merci Agnès Larocque.
Merci Thomas.
C'est maintenant la fin de l'émission, merci de l'avoir suivi. Merci à Xavier et Jérôme à la technique, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire. Encore un grand merci à tous nos invités, Estelle Baudou et Claudine Charnet, qui nous présentaient Chambre avec vue sur le fond des mers, à découvrir du 11 au 16 décembre 2012. Vladimir Lifschutz et Juliette Père, qui nous présentaient Les ombres de Peter Pan, que vous pourrez applaudir les 12, 13 et 14 décembre à 20h30 en Théâtre Cantor. Et enfin Agnès Larocque, qui est encore en studio et qui met en scène Les Femmes Savantes au Théâtre de Vénissieux le 13 et 14 décembre. Notez bien. Alors j'espère vous avoir donné de quoi occuper votre mois de décembre et de quoi vous faire plaisir en attendant les fêtes et leur lot de cadeaux et de chocolat. Nous irons bien évidemment voir tous les spectacles que nous avons présentés dans cette émission et vous pourrez écouter dans de prochains numéros dans le Spectateur nos critiques. Ainsi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 14e numéro d'En Spectateur et vous pourrez écouter l'interview de Patrick Azopardi qui nous parle du Messie d'Handel joué à l'Opéra de Lyon du 3 au 14 décembre et de son métier de régisseur de scène et juste après les critiques de la pièce que nous serons allés voir. D'ici là, surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au cinéma. Bref, n'oubliez pas de vivre En Spectateur. We'll be right back.